Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 9, esclavage sans soumission, émancipation sans liberté. Cinquième partie. Le premier discours inaugural de Lincoln, en mars 1861, était assez conciliant à l'égard du Sud et des États sécessionnistes. « Je n'ai pas l'intention, directement ou indirectement, d'interférer dans la question de l'esclavage dans les États où il existe. Je sais que je n'ai pas le droit légal de le faire et d'ailleurs je n'en ai pas non plus le goût. » Plus tard, quand, après 4 mois de guerre, le général nordiste John C. Fremont du Missouri décréta la loi martiale et déclara que les esclaves des propriétaires combattant les États-Unis seraient affranchis, Lincoln s'empressa de le démentir. Il était en effet soucieux de maintenir dans l'Union les États esclavagistes du Maryland, du Kentucky, du Missouri et du Delaware. Ce n'est que lorsque la guerre se fit plus dure, les pertes plus nombreuses, les chances de la gagner plus minces et les activistes abolitionnistes plus pressants vis-à-vis de la coalition bigarrée qui soutenait Lincoln, que ce dernier commença à condamner clairement l'esclavage. Hofstadter estime que Lincoln réagissait comme un baromètre sensible. Il enregistrait le sens des différentes pressions et, comme la pression des radicaux se faisait plus forte, il se tourna vers sa gauche. Le racisme était aussi bien ancré au nord que l'esclavage au sud. Il faudra la guerre pour les ébranler tous les deux. Les Noirs de New York ne pouvaient pas voter, à moins de posséder $250 de biens, condition que les Blancs n'avaient pas à remplir. Mise au vote en 1860, une proposition pour abolir ce système fut rejetée par les deux tiers de l'Assemblée. Frederick Douglass affirme, à cette occasion, que ce bébé noir qu'est le suffrage nègre a été jugé trop affreux pour être présenté en une si grande occasion. Le nègre a été mis à l'écart, comme certaines gens cachent leur enfant difforme lorsqu'ils reçoivent de la bonne compagnie. Les abolitionnistes accentuèrent leur pression. Des pétitions exigeant l'émancipation affluèrent au Congrès en 1861 et 1862. En mai 1862, Wendell Phillips s'emportait. « Abraham Lincoln peut ne pas le souhaiter, mais il ne pourra pas l'empêcher. La nation n'en veut peut-être pas, mais la nation ne peut l'empêcher. Je me fiche de savoir ce que les hommes veulent ou souhaitent. Les Noirs sont le grain de sable dans les rouages et la machine ne pourra redémarrer que lorsqu'on l'en aura retiré. » En juillet 1862, le Congrès vota un décret de confiscation qui autorisait l'affranchissement des esclaves appartenant aux maîtres qui se battaient contre l'Union. Ce décret ne fut pas appliqué par les généraux nordistes et Lincoln ne l'imposa pas. Garrison qualifiait la politique de Lincoln de « balbutiante, boiteuse, équivoque, irrésolue, faible et imbécile ». En août 1862, un échange de correspondance entre Lincoln et Horace Greeley, rédacteur en chef de la Tribune de New York, offrit à Lincoln l'opportunité d'expliciter ses positions. Greeley écrivait « Cher monsieur, je ne vous surprendrai pas, car vous devez déjà le savoir, en vous disant qu'une grande partie de ceux qui ont triomphé par votre élection sont amèrement déçus et profondément peinés par la politique que vous semblez poursuivre au sujet des esclaves des propriétaires rebelles. Nous vous demandons, en tant que premier serviteur de la République, spécifiquement chargé de cette mission, de faire appliquer les lois. Nous pensons que vous êtes étrangement et désastreusement négligent en ce qui concerne les articles sur l'émancipation du nouveau décret sur la confiscation. Nous pensons que vous vous laissez trop influencer par les conseils que vous donnent certains politiciens agités vivant à la frontière des États esclavagistes. » Greeley en appelait aux moyens pratiques de gagner la guerre. Il nous faut des éclaireurs, des guides, des espions, des cuisiniers, des transporteurs, des terrassiers et des bûcherons noirs, qu'ils soient ou non autorisés à combattre pour nous. Je vous conjure d'obéir de bon cœur et sans équivoque aux lois de la nation. » Lincoln avait déjà montré sa position par son incapacité à contrer les ordres de l'un de ses officiers, le général Henry Halleck, qui interdisait aux Noirs évadés d'entrer dans son armée. À présent, il répondait à Greeley en ces termes. « Cher monsieur, je ne voudrais pas laisser qui que ce soit dans le doute. Mon objectif ultime dans ce combat est de sauver l'Union et pas de maintenir ou de détruire l'esclavage. Si je pouvais sauver l'Union sans libérer aucun esclave, je le ferais. Et si je pouvais la sauver en libérant tous les esclaves, je le ferais. Si je pouvais également le faire en libérant certains esclaves et pas d'autres, je le ferais pareillement. Ce que je fais concernant l'esclavage et les gens de couleur, je le fais parce que cela permet de sauver notre Union. Ce que je m'abstiens de faire, je m'en abstiens parce que je ne pense pas que cela aiderait à sauver l'Union. Je viens d'expliquer mes intentions qui correspondent aux objectifs dictés par ma mission officielle et je n'en modifie pas pour autant mon opinion personnelle, maintes fois exprimée, que tous les hommes, partout, devraient être libres. Bien à vous, Lincoln. » Ainsi, Lincoln établissait-il une distinction entre son opinion personnelle et sa mission officielle. Lorsqu'en septembre 1862, Lincoln rendit publique sa proclamation préliminaire d'émancipation, il s'agissait en fait d'une stratégie militaire. Il offrait au Sud un délai de 4 mois pour cesser la rébellion, en menaçant d'émanciper les esclaves si les sudistes continuaient à combattre, tout en promettant de ne pas toucher à l'esclavage dans les États qui décideraient de se rallier au Nord. Que le 1er janvier de l'année 1863, toutes les personnes maintenues en esclavage dans tout État ou partie d'État, dont la population serait alors en rébellion contre les États-Unis, soient, à partir de ce jour et pour toujours, libres. C'est pourquoi, lors de sa publication, la proclamation d'émancipation affranchissait les esclaves vivant dans les régions qui continuaient de se battre contre l'Union. Zone soigneusement spécifiée dans la proclamation, mais ne statuait aucunement sur les esclaves qui vivaient à l'intérieur de l'Union. Le caractère restrictif de la proclamation d'émancipation ne pouvait qu'exacerber les forces anti-esclavagistes. À l'été 1864, une pétition de 400 000 signatures adressée au Congrès exigeait qu'une loi mette fin à l'esclavage. Événement sans précédent dans l'histoire du pays. En avril, le Sénat avait déjà voté le 13e amendement qui mettait fin à l'esclavage. La Chambre des représentants fit de même en janvier 1865. Avec la proclamation d'émancipation, l'armée de l'Union s'ouvrait aux Noirs. Et plus les Noirs s'engageaient dans la guerre, plus elle apparaissait comme une guerre pour leur libération. C'est pourquoi aussi, à mesure que les Blancs faisaient de sacrifices pour cette guerre, leur ressentiment contre les Noirs grandissait, en particulier au Nord, chez les Blancs pauvres, plus nombreux dans les rangs de l'armée depuis qu'une loi permettait aux riches d'échapper à la conscription en payant $300. Des émeutes provoquées par l'incorporation éclatèrent en 1863, ainsi que des révoltes de Blancs en colère dans les villes du Nord. Loin de prendre les riches pour cible, ces mouvements s'en prenaient aux Noirs qui se trouvaient à portée de main. Ce fut une orgie de sang et de violence. Un Noir de Détroit décrivit plus tard ce qu'il avait vu. Une foule immense, accompagnée d'un chariot, plein de tonneaux de bière et armé de gourdins et de briques, traversait la ville et attaquait les Noirs, hommes, femmes et enfants confondus. Il entendit un homme hurler « Si nous devons mourir pour les nègres, au moins tuons tous ceux de la ville !» La guerre de sécession fut l'une des plus sanglantes que l'humanité eut connue jusque-là. 600 000 morts dans les deux camps sur une population globale de 30 millions. Rapportée à la population américaine de 1978 avec ses 250 millions d'habitants, c'est l'équivalent de 5 millions de morts. Les batailles se faisant plus intenses, les cadavres s'empilant les uns sur les autres, la lassitude se faisait ressentir, l'existence des 4 millions de Noirs vivant dans le Sud devenait un dangereux problème pour le Sud et une chance à saisir pour le Nord. Dans son Black Reconstruction, Dubois fait remarquer la chose suivante. Ces esclaves avaient une arme formidable entre les mains. En cessant tout bonnement le travail, ils pouvaient faire peser sur la Confédération la menace de la famine. En choisissant le camp des Nordistes, ils démontraient à ces derniers, qui en doutaient, que l'on pouvait compter sur eux et, du fait même, prouvaient le contraire aux sudistes. C'est d'ailleurs ce qui entraîna la soudaine reddition du général Lee. Soit le Sud s'accordait avec ses esclaves, les libérait et les utilisait pour combattre le Nord, et donc renonçait à les maintenir dans la servitude, soit il se rendait aux Nordistes dans l'espoir qu'après la guerre, les États du Nord aideraient ceux du Sud à maintenir l'esclavage comme cela s'était toujours passé auparavant. Certaines femmes noires devaient supporter le triple fardeau d'être abolitionnistes dans une société esclavagiste, noires dans un milieu de réformateurs blancs et femmes dans un mouvement majoritairement dominé par les hommes. En 1853, lorsque Sojourner Truth se leva pour prendre la parole au cours de la 4e Convention nationale pour les droits des femmes qui se tenait à New York, ce triple fardeau pesait lourdement sur ses épaules. Elle déclara devant une foule hostile et bruyante, à la fois sarcastique et menaçante. « Je sais que cela semble un peu scandaleux de voir une femme de couleur se lever et vous parler de trucs au sujet des droits des femmes. Nous avons toutes été traînées plus bas que terre depuis si longtemps que personne ne pensait que nous nous relèverions un jour. Mais nous nous relèverons et aujourd'hui je suis là. Nous obtiendrons nos droits. Essayez seulement de nous en empêcher. Vous ne pourrez pas nous en priver. Essayez toujours. » Vous pouvez siffler autant que vous le voulez, mais cela viendra. Je suis assise parmi vous pour vous observer, et à chaque fois que je voudrais vous dire exactement ce que je pense, je me lèverai. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.